Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Existe-t-il un esprit de Schengen et serions-nous sur le point de le perdre ? Oui, à en croire une feuille de route établie en mars dernier par la Commission européenne. Ce document dresse un constat inquiet des accords de libre circulation signés à Schengen en 1985. Pour rappel, un dispositif unique dans le monde qui permet aujourd'hui à 417 millions de personnes de se déplacer librement à travers 26 États européens. Pas de contrôle aux frontières, donc, au sein de cet espace, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, devant permettre la gestion d'un événement comme le G20 ou l'Euro de football. Mais en septembre 2015, l'Allemagne demande une dérogation d'une toute autre nature. Le gouvernement veut rétablir le contrôle à ses frontières pour faire face à l'arrivée des réfugiés fuyant la guerre en Syrie. D'autres États suivent, Autriche, Slovaquie, Hongrie, Pologne et aussi la France. Dérogations qui ne doivent pas en théorie dépasser les 2 ans, sauf qu'on ne voit pas ce qui permettrait de lever ces contrôles face à la menace terroriste qui a frappé encore Berlin lundi soir et qui reste très élevée dans toute l'Europe. Les accords de Schengen sont donc sur le banc des accusés. Qui contrôle vraiment l'accès au territoire européen désormais ? Faut-il déléguer davantage à l'Union ou bien les États doivent-ils reprendre la main ? Libre circulation et surveillance peuvent-elles coexister dans un même projet ? L'esprit de Schengen est-il mort ? Eh bien, pour en discuter ce soir, nous recevons 3 invités. Pierre Verluise, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur des publications du site DiploWeb. DiploWeb, c'est une revue en ligne, revue de géopolitique. Et puis, vous êtes également chercheur associé à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Et je signale l'un de vos ouvrages, le dernier, je crois, écrit avec Gérard-François Dumont, Géopolitique de l'Europe, de l'Atlantique à l'oral. C'était au PUF en 2015. Notre deuxième invité est en duplex depuis Lyon, grâce au réseau France Bleu. Il s'agit de Marie-Laure Basilien-Guinche. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur de droit public à l'université Jean Moulin Lyon 3. Vous êtes spécialiste de droit européen. Alors, et vous avez juste là votre dernier ouvrage, État de droit et état d'exception, paru également au PUF en 2013. Et notre troisième invité est Yves Bertoncini. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur du think tank Notre Europe, l'Institut Jacques Delors. Et puis vous avez été élu, c'est tout récent, président du Mouvement européen France. C'est une association en faveur d'une qui milite en faveur d'une vision fédérale de l'Europe.
Et de l'Europe de Schengen, pour le coup.
Eh bien, première question, Pierre Verluise, et puis peut-être un petit retour sur l'attentat de lundi soir à Berlin. Un avis de recherche a été lancé pour l'Allemagne et pour tout l'espace Schengen, pour retrouver donc ce suspect, un Tunisien en séjour, qui était en séjour illégal en Allemagne. Très concrètement, aujourd'hui, grâce à la libre circulation, ça veut dire que ce suspect peut se retrouver dans n'importe quel état de Schengen actuellement.
C'est un risque qui est pris en compte à travers cette mesure. Cela montre que les États réagissent. Je crois que sur le fond, il ne faut pas perdre de vue que les États gardent la main sur les grandes questions de souveraineté, notamment les questions de sécurité, et que la construction européenne au sens large du terme, c'est une recherche de compromis entre la souveraineté à l'échelle nationale et une souveraineté partagée à l'échelle de l'Union européenne. J'ajoute qu'il y a 22 États de l'Union européenne qui sont membres de Schengen, plus 4 qui sont en dehors de l'Union européenne, d'où le chiffre 26 que vous avez donné tout à l'heure. Mais les États sont dans un calcul politique constant. Qu'est-ce que je peux gagner en cédant un peu de souveraineté ? Mais quand il y a une menace, un risque, alors les États récupèrent la main et reprennent la main sur la sécurité. Donc les États pensent que c'est leur responsabilité, ils n'ont pas tort. C'est un des droits de l'homme que d'être en sécurité.
Oui, alors au-delà des responsabilités, là on parle beaucoup de coopération aussi hein, entre les différents États. Puisque je disais, ce mandat il a été délivré au nom de l'Allemagne et au nom de tout l'espace Schengen. Yves Bertoncini, est-ce que les recherches seraient plus faciles si elles étaient limitées au territoire allemand ?
On ne sait pas où est cet assassin. Il avait été identifié sur le territoire allemand. Donc j'allais dire, il appartenait aux autorités allemandes de l'arrêter. Il était fiché. Visiblement, ils ont failli dans leur mission. Maintenant, il est peut-être ailleurs. Ou alors, il s'est réfugié en Allemagne quelque part. On le trouvera plus facilement en coopérant au-delà des frontières. Je signale que d'ailleurs, au moment des attentats de Londres, bien que le Royaume-Uni n'est pas dans Schengen, c'est grâce à une coopération policière et judiciaire que l'assassin qui courait encore a été arrêté à Rome. Et donc, la difficulté pour les États membres, plus exactement le défi auquel ils font face, c'est que on est face à un espace de libre circulation où circulent librement donc les biens, les marchandises, les services, les travailleurs. Ça veut dire très concrètement les transporteurs routiers, les frontaliers, parce que c'est pour eux qu'a été fait Schengen à la base, par deux pays, la France, l'Allemagne, puis trois qui les ont rejoints, Schengen à cinq, et puis ensuite tout le monde, parce qu'il y a une interdépendance économique. Donc tout le monde peut circuler librement, sauf les policiers et les juges. Et donc, ce que le code Schengen a organisé, parce que Schengen, ce n'est pas qu'un espace de libre circulation sans contrôle permanent aux frontières nationales, elles peuvent toujours être rétablies, ces contrôles, ils le sont parfois. Mais ce que Schengen a organisé, c'est aussi cette coopération policière et judiciaire sans laquelle il est très difficile d'attraper les criminels et les terroristes qui, eux, effectivement, circulent librement comme les autres.
Donc à la base, un projet de libre circulation, donc vous l'avez rappelé, hein, qui touchait les personnes, les marchandises. Est-ce que aujourd'hui, on a l'impression qu'aujourd'hui, quand on parle de Schengen, c'est surtout pour parler de coopération policière et de surveillance. Est-ce qu'on a une transformation de ce qui était le projet originel de Schengen, Marie-Laure Basilien-Guinch?
Je crois que vous avez raison. Il y a une transformation de l'esprit de Schengen. Il a été très bien décrit dans un récent rapport du Parlement européen. L'esprit de Schengen, c'est la libre circulation des personnes, parce que c'est la libre circulation des marchandises, des services, des capitaux fonctionne à peu près bien, mais celle des personnes était difficile à mettre en œuvre, et c'est pour ça que Schengen a été mis en place. Donc, libre circulation des personnes, donc suppression des contrôles aux frontières intérieures, pour que vraiment on ait une Union européenne, un sentiment européen, de citoyen européen. On s'aperçoit que à partir des attentats du 11 septembre, l'espace Schengen a été vraiment vécu aussi et surtout comme un espace qui a été réinvesti par les États européens, par les États membres, avec une sorte de subsidiarité inversée, rapprocher des autorités nationales finalement cet esprit européen pour instaurer de la surveillance. Alors surveillance essentiellement contre le terrorisme. Il faut penser aussi aux attentats d'Atocha, aux attentats à Londres, aux attentats à Paris et puis maintenant à la situation à Berlin. Reste que depuis 2011 en fait, on a eu une modification de cette surveillance. J'entends par là qu'il y a eu une volonté d'utiliser l'espace Schengen pour restaurer les contrôles aux frontières intérieures par les États membres, non pas pour contrôler les terroristes, contrôler la grande criminalité, mais plutôt pour empêcher les réfugiés de rentrer dans les États membres. Ce qui montre ici qu'il y a une instrumentalisation par les États d'un dispositif européen, parce que pour les réfugiés, il fallait appliquer le régime d'asile européen commun. Donc on a vraiment... de manière très étrange, alors que les États ont amplement utilisé la possibilité de restaurer les contrôles aux frontières intérieures, une volonté de supprimer cet espace Schengen, de le réformer, alors qu'il a été réformé en 2013 avec une entrée en vigueur en 2015, et que cette réforme a permis de réinstaurer les contrôles aux frontières intérieures. Donc on s'en prend à l'esprit Schengen qui a permis justement aux États de se réaffirmer. Donc je pense que l'espace Schengen a un rôle de bouc émissaire pour essayer de détacher les États membres de leur propre responsabilité nationale.
Yves Bertoncini, vous partagez cette impression que les États membres sont pris à l'esprit Schengen ?
Non, seulement partiellement. Hein. Sur la forme, il y a eu effectivement un usage souvent unilatéral des clauses de sauvegarde qui sont prévues dans le code Schengen. Je veux le souligner, invoquer les clauses de sauvegarde, c'est-à-dire... recontrôler, plus exactement, parce que c'est différent, demander l'autorisation de recontrôler aux frontières nationales.
Autorisation qui a été donnée.
C'est appliquer Schengen. Non, mais justement, ce qui a frappé la Commission, c'est que les États s'auto-arrogeaient cette possibilité. Et donc, sur la forme, c'était un peu unilatéral. C'est ce que dénonçait la communication de la Commission que vous citiez au début de cette émission. Mais sur le fond... Schengen, ce n'est pas que la liberté, c'est aussi la sécurité. Je trouve que le titre de cette communication de la Commission est assez désastreux, à vrai dire. Le code Schengen, il contient plus d'une centaine d'articles. La majorité de ces articles portent sur la coopération policière et judiciaire. Une fois qu'on a dit que pour les États volontaires, il n'y a plus de contrôle permanent aux frontières, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y en avoir. Ensuite, on organise, c'est un accord compensateur, on organise la coopération policière et judiciaire. Schengen, ce n'est pas qu'un espace, c'est un code, c'est une boîte à outils dont les États membres peuvent se servir pour mieux coopérer ensemble, parce que ce n'est pas aux frontières qu'on arrête les terroristes et les criminels, c'est en coopérant, la police, la justice, les services de renseignement, ce qui est d'ailleurs beaucoup, beaucoup plus difficile, parce que comme l'a dit Pierre Verluis, ça c'est le cœur des souverainetés nationales. Je crois que, du coup, il ne faut pas défendre seulement Schengen comme Schengen égale liberté. Schengen, c'est aussi la sécurité. Et j'ajoute, si vous le permettez, que comme Schengen a été confronté à un double stress test en même temps, c'est-à-dire la menace terroriste d'un côté, la crise des réfugiés de l'autre, il est vrai que les autorités nationales ont utilisé Schengen comme un bouc émissaire. En effet, ils ont invoqué les clauses de sauvegarde, souvent, c'est autorisé, encore une fois, c'est Schengen, sans appliquer en réalité les clauses de sauvegarde. Soyons très concrets, hein, puisque vous nous demandez l'esprit de Schengen est-il mort. Ben, allons aujourd'hui à la frontière franco-belge, 620 km. Il n'y a pas de contrôle systématique à la frontière franco-belge, parce que c'est matériellement impossible et ça n'arrêterait aucun terroriste. Simplement, c'est vrai qu'à l'époque, ça a été un signal envoyé pour dire aux réfugiés, ne venez pas. Il y a des contrôles, on va vous attraper. Mais il n'y a jamais eu, je veux le souligner, il n'y a jamais eu de contrôle systématique à tous les points de passage de la frontière franco-belge parce que c'était matériellement impossible de le faire et parce que justement, je termine, on en revenait à l'esprit de Schengen, parce que l'interdépendance économique et humaine entre les pays de l'Union européenne est maintenant beaucoup très développée et qu'en revenir à des contrôles permanents fixes et pourquoi pas à des miradors, ça aurait des coûts complètement dément. Ça suscitera d'ailleurs une protestation vive, notamment des frontaliers et des transporteurs routiers, pour aucun avantage du point de vue de la traque des terroristes.
Les États ont utilisé Schengen comme bouc émissaire, Pierre Verluis, au lieu de le prendre comme la boîte à outils qu'il est, comme vient de le rappeler Yves Bertoncini.
C'est juste, les États font des calculs, les États sont opportunistes, les États ont des opinions publiques, j'en parle au pluriel volontairement, elles sont diverses ces opinions publiques, elles sont parfois patientes et puis parfois moins patientes, parfois plus ou moins émotives ou manipulées dans leurs émotions et ces questions de sécurité sont importantes. On a du mal aussi au sein de l'Union européenne à comprendre que le monde est complexe et peut-être a-t-on fait preuve pendant quelques années d'une certaine naïveté sur ces questions de frontières. L'Union européenne s'interdit de penser la frontière, de définir ses limites. Elle dit que tout pays qui est européen peut devenir candidat sans définir ce que c'est que l'Europe. Alors quand on fait partie des personnes privilégiées qui voyagent grâce à leur carte bleue facilement d'une frontière à l'autre en sautant les frontières, justement en ne passant pas les frontières, on trouve ça tout à fait formidable, mais la plupart des personnes qui vivent dans l'Union européenne, 510 millions d'habitants, ne profitent pas de ces facilités de cette façon-là. Ils sont inquiètes de voir qu'il n'y a pas de limite et les élargissements semblent aujourd'hui peu portés par une adhésion large des opinions publiques. Je n'ai pas vu beaucoup d'intérêt pour les prochains candidats. La Turquie est un sujet clivant. Donc tout cela, ça nous renvoie à une naïveté peut-être pendant un certain nombre d'années. Et puis là, on se prend un boomerang dans la figure avec cette crise des réfugiés, ces migrants économiques aussi, qui viennent de territoires moins bien gouvernés et qui aspirent à un mieux-être. C'est tout à fait respectable, bien sûr, dans un sens, nous avons besoin de migrants puisque nous ne sommes pas capables, par notre accroissement naturel, de nous renouveler depuis plus de 3 décennies. Il n'en demeure pas moins que on pourrait espérer que l'Union européenne ait une vision plus réaliste, plus pragmatique et mette en place, par exemple, une politique de la population.
Alors pour rester un instant, avant de venir sur la politique migratoire, sur l'esprit de Schengen, puisque c'est le terme qu'on a choisi ce soir, je rappelle que l'accord a été signé en 1985, on était encore dans un contexte de guerre froide. Est-ce que à l'époque, on pouvait parler d'utopie, d'imaginer qu'on allait abaisser progressivement les contrôles aux frontières entre différents États membres? Qu'est-ce qu'il reste aujourd'hui de cette utopie, Marie-Laure Basilinguinche?
Alors, je ne crois pas qu'il s'agissait d'une utopie. Je ne pense pas que les États qui ont composé l'espace Schengen au départ aient fait preuve de naïveté. J'ai plutôt tendance à penser qu'ils avaient un grand sens des réalités pratiques et qu'ils ont voulu mettre en place par des petits pas concrets la réalisation en fait de cet espace économique commun, de ce marché intérieur que vraiment Jacques Delors a porté à son accomplissement. De naïveté sur les frontières, je pense qu'il n'y en a pas eu non plus, parce que si on regarde bien avec l'espace Schengen, certes, il y a une suppression qui peut être limitée des contrôles aux frontières intérieures. Il y a eu la mesure compensatoire d'un renforcement des contrôles aux frontières extérieures qui me semble particulièrement majeur. Il suffit de regarder le budget qui est alloué à l'agence Frontex et qui est passé diablement de 80 millions d'euros à maintenant plus de 320 millions prévus pour 2020. Donc je pense qu'il y a une lucidité sur les frontières, sur la nécessité de les contrôler à l'extérieur. Ce qui me semble en revanche être plus problématique, c'est cette difficulté qu'ont les États membres quand même à jouer le jeu. Alors on l'a vu en 2015-2016, l'esprit de Schengen est toujours là parce qu'on verra très très mal une instauration des contrôles systématiques à toutes les frontières des États membres de l'Union, des États membres de l'espace Schengen. Mais la lettre est peu respectée par les États membres qui ont une tendance à utiliser certains articles du code frontières Schengen, les articles 27 et 28 en particulier. Bon. Mais ce qui me semble quand même important, c'est ce manque de coopération qu'on peut observer dans les actes concrets pour aider les États de première entrée que sont l'Italie et la Grèce dans le déploiement des actions en matière de contrôle des frontières extérieures, ou le manque d'implication des États dans la volonté d'approfondir la coopération judiciaire et policière, parce que c'est évidemment, à mon sens, des organismes comme Europol et Eurojust qui permettent une meilleure collaboration entre les autorités nationales qui sont le plus à même d'instaurer la sécurité. Et ça, je partage la position d'Yves Bertoncini. L'espace Schengen, c'est un espace de liberté qui passe par la sécurité. Et la sécurité, c'est évidemment la sécurité contre les attaques, contre les incertitudes, mais aussi la sécurité du droit et des droits de chacun.
Yves Bertoncini, vous vouliez réagir ?
Oui, pour dire que, sans parler forcément de naïveté, l'esprit de Schengen, c'était, on en termine avec les contrôles systématiques à nos frontières intérieures, parce que, pour des raisons totalement pragmatiques, hein, pas idéologiques, hein. Schengen est né lors d'un dîner à Strasbourg entre Helmut Kohl et François Mitterrand, qui ont vu les camions sur le pont de Kehl en disant « ça peut pas continuer comme ça ». Et les Néerlandais, le Benelux a rejoint, donc c'était à 5, simplement parce qu'ils se sont dit « bah oui, ça peut pas continuer comme ça, on est trop interdépendants ». Alors l'une des erreurs qui a peut-être été commise au niveau des autorités européennes, c'est de greffer sur ce choix qui est très basique, peut-être une idéologie libre-circulatoire qui laisse à penser que Schengen, ce n'est que la liberté. Mais je le redis, c'est la sécurité aussi Schengen. Alors, ceci étant, une fois qu'on a fait on a pris cette décision sur les frontières intérieures, il y avait un problème qui se décalait aux frontières extérieures. Puisqu'après tout, quelqu'un qui rentre par la Grèce, qui rentre par l'Italie ou par tout autre pays de l'espace Schengen sur les frontières extérieures, ensuite est libre, effectivement, de circuler un peu partout. Et c'est là qu'il s'est passé quelque chose au cours de ces dernières années, au terme d'une sorte de contre-la-montre, hein, entre les États qui n'avaient pas confiance les uns envers les autres, pas confiance vis-à-vis de la politique du laisser-passer des Italiens, des Grecs, et qui se disaient, bah, attendez, soit on européanise le contrôle aux frontières extérieures, c'est-à-dire que ce ne sont plus les Grecs qui contrôlent les frontières grecques, puisque ce sont nos frontières, on va les contrôler en européen, même chose en Italie, même chose en Bulgarie, soit, et en tout cas en attendant, on se donne la possibilité théorique de rétablir le contrôle à nos frontières nationales à nous. Sauf que qu'est-ce qu'on a vu ? Eh bien, ce qui l'a emporté, en tout cas ce qui est en train de l'emporter, c'est l'européanisation du contrôle aux frontières extérieures, puisque Frontex a été transformé en corps européen de garde-frontières. Et ça, c'était tout à fait nécessaire pour réduire le déficit de confiance qu'il y avait entre États membres vis-à-vis de pays comme la Grèce et l'Italie, qui étaient suspectés, et d'ailleurs on les comprend, de laisser passer les migrants, puisque les migrants ne voulaient pas rester chez eux. Alors maintenant, ce qui reste à faire en revanche, c'est de combler le déficit de solidarité vis-à-vis de pays comme la Grèce et l'Italie. Parce que là, ce n'est pas Schengen, c'est le règlement de Dublin. Le règlement de Dublin dit que un demandeur d'asile qui arrive en Grèce, il doit déposer sa demande d'asile en Grèce, ou alors même chose en Italie. Et ça, c'est totalement asymétrique. Et c'est aussi ça qui pousse les Grecs et les Italiens, parfois, à laisser passer, parce que, pour des raisons géographiques, ils sont face à ce flux de demandeurs d'asile et aussi de migrants économiques, et que s'ils ne ressentent pas de la solidarité européenne, ils sont d'autant moins incités à exercer leur tâche européenne de contrôle aux frontières. Donc la première partie, j'allais dire, est en train d'être réglée. On européanise le contrôle aux frontières extérieures, mais ce qui reste maintenant posé, c'est quelle solidarité vis-à-vis des demandeurs d'asile en Europe. Il y a eu des tentatives qui ont été faites, hein, des mécanismes de relocalisation qui ont été adoptés en théorie, mais qui ne fonctionnent pas du tout en réalité.
Pierre Verluise, est-ce que vous avez l'impression que cette européanisation du contrôle des frontières extérieures est vraiment, vraiment performante, et en tout cas perçue comme telle par les Européens, cette impression qu'il y a vraiment une entité supranationale qui prend véritablement en charge le contrôle et la surveillance des frontières?
Le processus est en cours, on ne peut pas juger de ce qui va advenir. En tout cas, ce qui est certain, c'est que chacun se souvient qu'en l'an 2015, le contrôle des frontières extérieures de l'espace Schengen a, semble-t-il, été pris à défaut, notamment en Grèce. Et que la Grèce reste membre de l'espace Schengen, c'est assez étrange. C'est un des merveilleux non-dits du débat public, c'est que fait la Grèce dans l'espace Schengen alors qu'elle n'est pas capable d'assurer la sécurité de nos frontières extérieures. Si on était désagréable, on pourrait poser la question pour d'autres pays, mais le fond du sujet, effectivement, ça a été
parfaitement... Sauf si l'Europe l'assure à sa place.
Tout à fait, mais faut-il encore, on le voit, ça revient à la question de la souveraineté, que les États l'acceptent. Donc les grands mots ont été, je crois, pointés avec beaucoup de justesse. C'est la question de la confiance, c'est la question de la solidarité, et jusqu'où on va dans cette solidarité. Et c'est le cœur, en fait, du projet européen. C'est le cœur également de l'aide aux régions les plus pauvres. C'est le cœur, pour revenir à notre sujet, de la relocalisation dans des États membres de personnes qui sont réfugiées. Jusqu'ici, les États n'ont pas été parfaitement en règle, parfaitement cohérents dans l'application de leurs engagements, y compris la France, y compris l'Allemagne.
France Culture, du grain à moudre.
Mélanie Chalandon.
L'esprit de Schengen est-il mort? C'est la question dont nous débattons ce soir jusqu'à 19h avec Pierre Verluise, Marie-Laure Basilin-Guinche et Yves Bertoncini. Donc, on le rappelait, de nombreuses dérogations qui ont été demandées par plusieurs États environ depuis 2015 sous l'effet de la pression migratoire. Est-ce que ces dérogations vous semblaient justifiées? Et est-ce que surtout leur prolongation le sont encore? La Commission européenne avait quand même pour espoir, hein, dans ce fameux document qu'on citait tout à l'heure, revenir à l'esprit de Schengen, avait pour espoir de régulariser, de revenir à la situation de totale libre circulation fin décembre 2016. Il faut s'attendre à ce qu'en 2017, les dérogations perdurent. Yves Bertoncini ?
Il faut tout de même dire qu'aujourd'hui, les dérogations, vous les appelez comme ça, moi j'appelle ça une application de la Convention de Schengen, en tout cas les clauses de sauvegarde, elles ne sont plus qu'appliquées par quatre pays de l'Union européenne. Hein. La France, parce que c'est l'état d'urgence, et puis seulement quatre autres, l'Allemagne, l'Autriche, la Suède, la Finlande. J'ajoute la Norvège, hein, la Norvège étant hors Union européenne, mais dans Schengen. 4 plus 1. Pour la France, c'est durable, c'est lié à l'état d'urgence, aux attaques terroristes. Mais pour l'Allemagne, l'Autriche, la Suède et la Finlande, c'est plus que pour 3 mois. C'était 6, maintenant c'est plus que 3. C'est supposé se terminer en février. Pourquoi cela pourrait se terminer? Justement parce que les mesures ont été prises, y compris en Grèce, avec aussi des actions à la source, hein, quand on parle de la crise des réfugiés, l'accord UE-Turquie, hein, qui est de la pure réelle politique, mais enfin, de facto, le flux des migrants et des demandeurs d'asile qui était constaté l'année dernière, c'est tari très globalement. Hein. Donc, maintenant que les conditions ont été créées, y compris parce que la Grèce, même si on n'était pas très satisfaite, a dû consentir à une sorte de partage de sa souveraineté. Le corps européen de garde frontières est en Grèce, il est aussi en Bulgarie, pour exercer en commun le contrôle des frontières extérieures. Eh bien, les conditions politiques sont sans doute créées pour que ces clauses de sauvegarde se terminent en février. Il est vrai que, en parallèle, risque d'être négocié, ou est en train d'être négociée, une nouvelle clause de sauvegarde qui pourrait être introduite. On en a introduite une après les printemps arabes pour dire, et c'est justement celle qui est activée en ce moment vis-à-vis de la Grèce, qu'en cas de défaillance structurelle des contrôles dans tel ou tel pays, eh bien, dans le cadre de Schengen, on pourrait rétablir les contrôles aux frontières intérieures. Ce qui est en discussion, c'est peut-on rétablir de tels contrôles en cas d'attaque terroriste ? Et peut-être une clause de ce type va-t-elle être insérée dans le code Schengen ? Mais ça montrera quoi ? Ça montre que le code Schengen est beaucoup plus plastique, flexible, pragmatique qu'on ne le dit, et qu'il a déjà été adapté, y compris sur la demande de certains États membres, pour sauvegarder l'essentiel, c'est-à-dire qu'à l'heure où on se parle, il n'y a pas de contrôle systématique aux frontières, ni, je l'ai dit, entre la France et la Belgique, mais même ni entre l'Allemagne et l'Autriche. Alors l'Allemagne, évidemment, compte tenu de l'attentat qui est survenu hier, il y a quelques jours, pardon, eh bien, ils ont pu réactiver certaines de ces contrôles. Simplement, s'il s'agit de lutter contre le terrorisme, on n'a jamais arrêté un terroriste à une frontière. Donc, il est beaucoup plus utile, et ça aussi, c'est Schengen qui l'organise, le code Schengen, de coopérer entre les différentes polices, entre les différentes justices, entre les services de renseignement. Et si vous le permettez, c'est déjà très difficile à faire au sein d'un même pays. Il y a la guerre des polices. Évidemment, ce n'est pas facile à faire au niveau européen, mais c'est pourtant l'horizon le plus raisonnable. C'est celui, au-delà des effets de manche de communication, sur lequel les États sont quand même en train d'essayer de faire des progrès.
Marie-Laure Bazininger, vous êtes spécialiste de droit européen. Est-ce qu'il faut se réjouir que le code Schengen et le droit européen soient particulièrement plastiques pour s'adapter aux réalités ?
Bah, tout dépend de l'utilisation de cette plasticité. Je pense qu'avec la modification, la réforme du code frontières Schengen en 2013, entrée en vigueur en 2015, les articles 28 et 29 permettent de faire face aussi à la question terroriste. Alors peut-être que ça peut rassurer un peu les autorités nationales des États membres. Je pense que en fait c'est sans intérêt de faire une nouvelle modification de l'esprit du régime de Schengen. En revanche, moi, j'ai des soucis quand même sur l'utilisation du critère ou du souci de sécurisation, alors que on ne devrait pas appliquer le régime de Schengen, mais plutôt le régime d'asile européen commun. Permettre des dérogations à la suppression des contrôles aux frontières intérieures. Donc, permettre aux États de restaurer les contrôles aux frontières intérieures pour pointer le doigt sur la défaillance structurelle du contrôle aux frontières extérieures de l'espace Schengen par la Grèce me semble être un tour de passe-passe qui masque mal le fait qu'on reproche à la Grèce finalement d'avoir laissé entrer sur son territoire des ressortissants d'États tiers en demande d'asile, donc des réfugiés au sens du droit international, et qu'on a été bien en peine, États membres de l'Union européenne, d'accueillir dignement des personnes qui avaient besoin d'un refuge. Bon, 1 500 000 personnes sur 2 ans, auxquelles on a proposé vaguement 160 000 relocalisations. On a peine à atteindre les 6 000 au bout de 2 ans. Enfin, on est vraiment des géants au pied d'argile pour assurer la protection et la sécurité de ces personnes qui fuient les terroristes islamistes. Donc je trouve que pointer du doigt la Grèce, c'est en fait une façon de pointer là encore un bouc émissaire pour ne pas reconnaître nos propres responsabilités d'États membres dans un esprit européen où le principe de solidarité, le principe de loyauté sont assez malmené. Et je pense que si on devait vraiment faire une réforme aujourd'hui, c'était de réinvestir cet esprit Schengen, parce que c'est lui qui assurera le plus de liberté et le plus de sécurité pour chacun de nous.
Derrière le débat sur l'espace Schengen, il y a donc un débat peut-être plus caché, en fait un rapport de force sur les questions de politique d'immigration, à la fois entre États qui se renvoient la balle, et puis entre les États membres et l'Union européenne. Pierre Verluise.
L'Union européenne est dans une relation très schizophrénique par rapport aux questions migratoires, puisque globalement, depuis les années 70, les pays européens, sur des calendriers différenciés et des niveaux variables, bien évidemment, mais globalement ont du mal à atteindre le seuil de remplacement des générations, qui est aux alentours de 2,1 enfants par femme, avec des pays qui sont entrés en 2004, qui étaient très marqué par cette question, avec des seuils de l'ordre de 1,3 enfants par femme, par exemple, en Europe centrale. Donc on est de plus en plus dépendant des flux migratoires pour garder un accroissement total positif. Et l'année 2015, sur laquelle on a maintenant des données consolidées, est une grande première, puisque pour la première fois, c'est l'accroissement migratoire qui a constitué à lui seul la totalité de l'accroissement total de l'Union européenne, puisque l'accroissement naturel de l'Union européenne a été négatif en 2015. Il y a eu plus de morts que de naissances. C'est donc grâce à l'accroissement migratoire que l'accroissement total de l'Union européenne est resté positif. Donc on a besoin de migrants. Mais ce qui est tout à fait étonnant, c'est que l'Union européenne s'interdit d'avoir une politique de la population. Alors que le diagnostic est posé depuis longtemps, on sait qu'on a besoin de migration. Le Parlement européen, en 2008, a fait un rapport favorable à une réflexion et à des décisions concernant la politique de la famille, la politique migratoire, la durée du nombre d'années travaillées. Parce qu'évidemment, si on vieillit, il faut travailler plus longtemps. C'est difficile autrement. Le diagnostic est posé. Il se trouve que la crise de 2008 venue des États-Unis est venue frapper de plein fouet les comptes publics des États membres et qu'on n'a pas mis en place ce qu'on sait devoir mettre en place. Mais il est plus que temps de se poser la question, comment faisons-nous pour avoir une politique de la population qui soit cohérente, qui permette à ceux qui veulent d'avoir des enfants dignement, qui permette d'accueillir et d'intégrer les migrants dont on a besoin, de façon à participer ensemble sur des valeurs qui sont celles de l'Union européenne, de façon solidaire, à construire un espace de vie qui nous convient.
Une politique de population, une politique d'immigration commune à l'Union européenne, pour le coup, on n'y est pas encore. Pour le coup, ce serait une utopie, Yves Bertoncini.
Ça serait utile, en tout cas, mais c'est vrai qu'on en est loin, ne serait-ce qu'en matière d'asile. Hein, je suis d'accord avec ce qu'a dit Marie-Laure Basilien, à savoir que les Européens, pour la plupart, pas tous, hein, mais pour la plupart... on considérait qu'ils n'étaient pas en capacité d'accueillir des demandeurs d'asile et certains pensaient même que ces demandeurs d'asile étaient des menaces alors qu'ils sont des victimes. Angela Merkel a pris une position assez courageuse en disant ce sont des victimes, nous allons donc les accueillir. Mais il y a eu des fractures au sein de l'Union européenne parce qu'au-delà des demandeurs d'asile, la question migratoire dans son ensemble renvoie à un questionnement identitaire, à une crise identitaire d'une certaine manière. Les Européens savent bien qu'ils vieillissent, qu'ils ne font plus d'enfants. L'Union européenne, c'est 7% de la population mondiale. Lorsque nos amis britanniques auront choisi de nous quitter pour de bon, ben ça sera plus que 6%, compte tenu des évolutions démographiques, plus que 5%. Et donc, d'une certaine manière, cette crise des réfugiés est un signe avant-coureur qui n'est pas du tout un défi logistique. On peut, même si c'est difficile, accueillir des réfugiés en Allemagne, à condition tout de même d'assurer un contrôle aux frontières extérieures qui devient un peu plus effectif parce qu'on a bien vu qu'au sein de ce flux de demandeurs d'asile, s'étaient glissés d'abord des migrants économiques et puis quelques apprentis terroristes tout de même. Mais une fois que ceci est fait, la question qui reste posée, c'est les Européens sont-ils prêts à accueillir des demandeurs d'asile, mais au-delà davantage d'immigrés, y compris si fait évoluer leur société dans un sens un peu plus multiculturel, ou est-ce que, au fond, ils préfèrent ne pas le faire et puis peut-être consentir à une baisse relative de leur niveau de vie. Je crois qu'il faudrait poser la question un peu comme celle-là, comme cela, parce que qu'il n'y ait pas l'impression dans les populations que c'est un choix obligé, hein, une nécessité. Oui, c'est une nécessité économique et démographique, bien sûr, l'immigration, j'en suis persuadé. Mais peut-être faut-il aussi expliquer qu'au fond, c'est un choix, un arbitrage, d'une certaine manière. Il y a des enjeux économiques, sociaux, il y a des enjeux identitaires. Moi, je crois tout à fait aux sociétés multiculturelles. Il y a eu de grands débats un peu partout. Il y en a eu en Allemagne, y compris sur le modèle multiculti. Il y a d'autres sociétés en Europe, notamment en Europe centrale et orientale, qui sont nettement moins préparées à ce type de société, de sorte que les populations ont réagi de manière totalement émotionnelle et excessive face à un flux de demandeurs d'asile qui n'avaient aucune intention de venir chez eux, en plus. Hein. Mais ça donnait bien le caractère émotionnel de ce débat et donc la difficulté d'en sortir dans un cadre européen.
Marie-Laure Basilien-Guinche, sur ce que dit Yves Bertoncini, une crise identitaire en Europe qui empêche de penser sereinement là à la politique d'immigration.
Je partage cette position. On a une crise d'identité européenne, alors crise de l'Union, mais crise aussi des États membres comme membres de l'Union, et puis crise des peuples des États membres de l'Union comme citoyens européens. Et je crois que, faute de pouvoir savoir, nous, Européens, qui nous sommes et qui nous voulons être, faute de savoir comment poser la question et comment y répondre, il y a la tentation, en fait, de se fermer, de se clore, la tentation d'exclure et de se clôturer. Et je me demande si cette crise d'identité n'est pas révélatrice, finalement, d'une crise de confiance en nous-mêmes, Européens, une crise de confiance en soi. Et cette crise de confiance, elle va appeler nécessairement du raisonnable et du rationnel pour dépasser un irrationnel qui finalement aboutit à des décisions contre-productives. Parce que, comme l'a très bien expliqué Pierre Verluise, on a besoin d'une politique d'immigration qui ne soit pas celle de la fermeture qui a été mise en place depuis les années 90, mais une politique de l'ouverture accompagnée d'une politique de l'intégration. Alors là, pour le coup, il y a un énorme travail à faire au niveau de l'Union et au niveau des États sur l'intégration des migrants. Mais je pense qu'il y a toute une réflexion à développer sur cette identité, mais la poser sereinement et en des termes qui ne soient pas clivants par des politiques qui jouent sur les émotions serait grandement nécessaire, effectivement.
Pierre Verluise ?
Oui, c'est un débat politique, c'est un débat citoyen. J'observe que, malheureusement, le lien entre les citoyens et la construction européenne n'est peut-être pas aussi fort qu'on pourrait l'espérer, que la participation aux élections pour le Parlement européen a considérablement diminué, même si pour le Parlement de 2014, elle est restée stable par rapport à celui de 2009. Mais enfin, on est quand même en dessous du niveau de la mer, puisqu'on est aux alentours de 43% de participation. C'est peu, c'est insuffisant, alors que le Parlement européen a de plus en plus de pouvoir. Et sur ces questions de population, le Parlement européen a des choses à dire.
Alors justement, un ancien président du Parlement européen, Jerzy Buzek, avait dit en 2011 « Nous ne devons pas détruire l'espace Schengen, la liberté de circulation est probablement l'aspect de l'Union européenne le plus apprécié des Européens ». Yves Bertoncini, pour revenir au symbole un peu de l'espace Schengen.
Absolument, mais d'ailleurs il suffit de lire les récentes enquêtes Eurobaromètre qui viennent juste de sortir, qui sont en ligne, tout le monde peut les regarder, la libre circulation est plébiscitée par les Européens et les Polonais en particulier. Demandez aux Polonais, même s'ils sont un peu eurosceptiques, oui, y compris parce qu'ils ne voulaient pas accueillir de demandeurs d'asile s'ils veulent sortir de l'espace Schengen, mais absolument pas. Et donc c'est là qu'il faut vraiment faire la distinction entre la communication politique, ce qui a pu se passer, ça révélait de vraies tensions, les stress tests, le terrorisme d'un côté, et c'est encore en cours, la crise des réfugiés de l'autre. Et donc il y a eu des tensions entre États membres d'abord, entre peuples également, parce que les Polonais n'avaient pas dans leur majorité la même position que les Allemands. Les Hongrois n'avaient pas la même position que les Suédois. C'est pas tant une fracture entre Bruxelles et les peuples, c'est une fracture entre les peuples. Mais pour autant, il y a quand même un consensus de base qui est très majoritaire. On l'a vu dans un premier temps sur la zone euro avec beaucoup beaucoup de tensions, mais vous n'avez aucun pays membre de la zone euro qui veut en sortir à ce stade. Et on le voit en ce moment pour l'espace Schengen qui est en train d'être réformé, cas à cas, qui est assez flexible, mais qui demeure. Et donc, comme nous l'avions écrit à l'Institut Jacques Delors il y a un an et demi, Schengen est mort, mais vive Schengen.
Pierre Verluise, juste un tout petit mot, il nous reste quelques secondes. Vous êtes d'accord avec le fait qu'il y a un consensus sur un accord, d'accord des peuples sur l'espace Schengen ?
Je pense qu'il faudrait vérifier ça de plus près. Mais ce qui est certain, pour parler de l'actualité, c'est que, historiquement, on sait que chaque attentat sur le territoire de l'Union européenne renforce progressivement la coopération entre les États sur les questions de renseignement et de lutte contre le terrorisme. Et c'est plutôt une bonne chose.
Eh bien, merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à ce débat. Merci Yves Bertoncini, je rappelle, directeur de l'Institut Jacques Delors et président depuis peu du Mouvement Européen France. Merci à vous Pierre Verluise, directeur des publications du site DiploWeb. Je rappelle votre ouvrage coécrit avec Gérard-François Dumont, Géopolitique de l'Europe de l'Atlantique à l'oral, paru au PUF en 2015. Merci à vous Marie-Laure Basilien-Guinche, professeur de droit public à l'Université Jean Moulin Lyon 3. Puis merci beaucoup à nos collègues de France Bleu Lyon qui vous ont accueillis. Demain, comme chaque vendredi, on retrouve le Club des Idées avec cette question: l'humiliation peut-elle être moteur de révolution? Et oui, jusqu'au 31 décembre, quinzaine spéciale sur l'antenne en grande partie dédiée aux émotions. Et puis, nous, au Grain à Moudre, nous avons choisi l'humiliation. Voilà.